Chapitre 61. Au-dessus de l'Europe. Le froid de l'air conditionné hérissait la peau de Cécile. La chercheuse frissonna, chercha d'une main aveugle dans un demi-sommeil une couverture qui n'existait pas, puis s'éveilla. Elle se découvrit entièrement nue, collée contre la poitrine de Zach, leurs vêtements et sous-vêtements jetés en boule sur l'épaisse moquette du Falcon 2000. Zach continuait de dormir profondément, intégralement dévêtu lui aussi, à l'exception de sa chemise qui pendait sur son torse musclé. Cécile se leva avec d'infinies précautions et admira son amant assoupi dans une position délicieusement impudique. Contrastant avec la climatisation dans l'avion, un vent chaud souffla sur son ventre embrasé. Elle enfila son t-shirt Calvin Klein qui ne lui recouvrait que la moitié des fesses. La chercheuse ne parvenait pas à comprendre ce qui lui arrivait. En 2 jours à peine, elle avait failli mourir une demi-douzaine de fois, avait traversé l'Europe du nord au sud, puis d'ouest en est, s'était saoulée au champagne millésimé dans le salon grand luxe d'un jet privé, avant de faire l'amour avec un quasi-inconnu qui, tout en la faisant jouir, lui révélait les secrets mystiques de la naissance de l'humanité. Et cette aventure ne faisait que commencer. Elle n'avait pas encore approché la Rara. Zach, toujours endormi, sembla instinctivement rechercher la présence de Cécile. Il se tourna sur le côté, puis retomba dans un profond sommeil. Sa chemise avait glissé de quelques centimètres sur son épaule. Cécile s'approcha à pas de loup, câline, hésitant sur la méthode pour réveiller son amant. Asseoir doucement son sexe sur la peau râpeuse de son visage mal rasé ou faire jouer ses lèvres sur ses abdominaux jusqu'à son sexe recroquevillé. Elle se pencha encore. D'abord, elle n'en crut pas ses yeux. Ensuite, elle se mordit les lèvres pendant qu'un torrent de larmes inondait ses yeux. Un barrage qui cédait. Tout s'effondrait en une fraction de seconde. Tout ce qu'elle avait vécu depuis 2 jours glissait dans un précipice sans fin. Elle avec. Une licorne était tatouée sur l'omoplate droite de Zach. Le signe des Néphilim. Cécile se recula en titubant, brusquement dégrisée. Les événements récents défilaient devant ses yeux, éclairée d'une lumière différente, atroce, délirante. Le signe des Néphilim. Zach était l'un des leurs. La vérité devenait tellement évidente sous cet angle. La facilité des Néphilim à toujours les retrouver, les devancer, comme s'ils lisaient dans les pensées de Zach. Tout n'était que mise en scène, rituel symbolique, jeu du chat et de la souris. L'objectif du commando Néphilim n'était pas de les tuer tous les trois, mais de seulement les éliminer, elle et Arsène. Zach s'était emparé du rapport RS2A 2014, comme il s'était emparé auparavant du livre d'Enoch ou du fragment d'Arche de Navarra. Leur périple n'avait pas d'autre but que de faire disparaître un par un les témoins, tous les prétendus amis de Zach. Noël Archer, Jean-Bernard Pat, Arsène et elle n'avaient été que des appâts, des pions. Sans l'intervention de la garde suisse au cloître de Monréalais, ils auraient été froidement abattus et Zach aurait tranquillement rejoint le commando Néphilim. Cécile observa avec effroi Zach Ikabi endormi, son sourire d'ange, sa tignasse ébouriffée. Son allure de doux rêveur illuminé n'était donc qu'un piège. Elle s'en était doutée d'instinct lorsqu'il avait surgi à Toulouse dans son laboratoire. Mais le diable était malin. Petit à petit, elle s'était laissée séduire. Quelle sotte! Zach était sans doute une sorte d'extrémiste créationniste. Comment avait-elle pu se laisser prendre à son délire ésotérique, les licornes, le déluge, le livre d'Enoch? Cécile regarda avec dégoût les cadavres de champagne qui roulaient sur la moquette. Elle devait en avoir le cœur net. Elle s'avança sans un bruit et plongea la main dans la veste de Zach. Elle en sortit un épais portefeuille. Elle s'éloigna vers l'avant de l'avion et détailla le contenu. Toutes les pièces d'identité, cartes de sécurité sociale, passeports, permis de conduire, étaient au nom de Zacharia Kopia. Une preuve de plus de sa duplicité, mais Cécile n'allait pas s'en contenter. La chercheuse fouilla plus en détail les rabats du portefeuille, méticuleusement, jusqu'à ce que ses doigts sentent un léger enflement. Ils se glissèrent, tirèrent. Elle venait d'extraire 4 photographies. Cécile les fit glisser en éventail dans ses mains, tremblantes, comme des cartes de poker qu'un joueur novice hésite à découvrir. Sur la première, elle reconnut Zach. Il devait avoir environ 6 ans et portait serré entre ses bras une grosse licorne en peluche bleue. Sur ce point, au moins, il n'avait pas menti. À ses côtés, un autre garçon posait, légèrement plus âgé, 1 an ou 2 peut-être, déguisé en mousquetaire. Il se tenait debout devant un banal pavillon de banlieue. Son frère, peut-être, imagina Cécile. La seconde photographie représentait un paysage de montagne. Le cliché était flou, comme pris sous la neige, mais on devinait 3 silhouettes. Une grande et 2 plus petites, minces, telles celles d'adolescents. Dissimulés qu'ils étaient sous d'épais manteaux et cagoules, il était impossible de davantage les identifier. Les pieds dans la glace, tous 3 exhibaient fièrement une longue poutre de bois. La rara, pensa immédiatement Cécile. Ces silhouettes portaient un morceau de l'arche. Elle posa les yeux sur les 2 autres photographies. Elle faillit en crier de surprise. La première la représentait. À cette époque, elle commençait sa 2e année de thèse. Elle avait alors moins de 25 ans. La photographie avait été prise sur le glacier du Manitsoq, au sud du Groenland, son terrain d'études à l'époque. Qui diable avait pu la photographier à des centaines de kilomètres de toute terre habitée? C'était purement impossible. Comment ce cliché fantôme avait-il pu atterrir dans le portefeuille de ce fou? La dernière montrait Arsène Parella. Un Arsène Parella tel que Cécile ne l'avait jamais connu, trop jeune. Il devait alors avoir 30 ans, et posait dans un décor lunaire, une sorte de désert de sable et de cailloux qu'elle ne reconnut pas. Ce cliché de son professeur la troubla au moins autant que les autres. Elle s'était toujours représenté son mentor sage et grisonnant. Les questions affluaient dans son cerveau incandescent. Que signifiaient ces photographies? D'où provenaient-elles? Pourquoi cet homme, Zaki Kabi ou Zakaria Kopia, les conservait-il dans son portefeuille? Dans l'instant, ces clichés ne lui fournissaient aucune réponse. Cécile les replaça rapidement, puis retourna dans le salon du Falcon. Zach dormait toujours. Le regard de la chercheuse embrassa l'habitacle et s'arrêta sur l'ordinateur portable. Elle s'apprêtait à réveiller Arsène Parella lorsqu'un mot s'afficha dans son esprit. Ciercel. Le code. Le mot de passe qui permettait d'entrer sur le site de Zach. Si elle devait se torturer les méninges pour le résoudre, c'était maintenant ou jamais. Elle se pencha vers le hublot le plus proche de l'ordinateur. Il était recouvert d'une légère buée. Sans doute le résultat de ses ébats avec ce monstre, pensa Cécile écœurée. Fébrile, elle passa son doigt sur la vitre et écrivit en lettres bâtons. Ciercel. Un code enfantin, avait plaisanté Zach. Il suffit de penser à l'arche de Noé. À la vitesse de l'éclair, elle fit défiler dans sa tête les mots qui lui venaient. Déluge, arche, arara, couple, colombe, arc-en-ciel, olivier. Elle les répéta plusieurs fois, en boucle, comme une prière. Sur le hublot, les lettres dégoulinaient, presque illisibles. La solution lui apparut soudain, comme un astre derrière des nuages qui s'écartent. Cécile s'effondra sur le fauteuil le plus proche. Le cuir glaça ses fesses nues. Arc-en-ciel! Mon Dieu, c'était tellement évident. Sur le hublot, Cécile traça 2 traits entre les lettres. CI/ARC/EL. Ainsi isolé, le mot arc se retrouvait exactement au centre de 2 syllabes, si et elle. Phonétiquement, le mot pouvait alors se lire arc en ciel. Un rébut digne d'un enfant de 10 ans. Vexée d'avoir mis autant de temps à trouver la clé, Cécile alluma l'ordinateur. Elle posa la main sur le haut-parleur lorsqu'il démarra. Précaution inutile. Ce serpent sournois de Zach dormait toujours à poing fermé, épuisé de l'avoir baisé. www.ciercel.com. Utilisateur, Ciercel. Mot de passe, arc-en-ciel. Bingo. Elle était entrée. Cécile pouvait se vanter d'une bonne maîtrise de l'informatique, y compris pour tout ce qui touchait à Internet. Elle avait mis au point et entretenait elle-même le site du DIRS. En quelques clics, elle retrouva les pages que Zach leur avait montrées chez Noël Archer. Il prétendait les avoir téléchargées, créées à partir de liens, compilées en centralisant toutes les pages de la toile qu'il avait pu découvrir sur les Néphilim. Elle allait vérifier. Grâce au mot de passe, elle accéda à tous les droits de l'administrateur. Elle rédigea quelques lignes de script et parvint aux sources du site www.ciercel.com. Elle put lire, ligne après ligne, son historique. Toute la mémoire du site depuis sa création. Mot après mot, la vérité s'imposa. Le cuir du fauteuil gelait sa peau nue, se collait à son sexe. Une furieuse envie d'uriner la pressait. Plus tard. Zach et Kaby n'avaient pas téléchargé une ligne. Les pages consacrées au Néphilim n'établissaient aucun lien avec d'autres sites, au contraire. Le site www.ciercel.com était le site originel des Néphilim. Il représentait pour eux l'unique accès à cette information démoniaque, à cette propagande fanatique, à ces forums de terroristes échangeant leurs impressions sur leurs crimes et tortures. Pire que cela, l'historique du site ne laissait aucun doute. Zach en était le webmaster. Sous le t-shirt, le cœur de Cécile battait à se rompre. Elle eut l'impression que l'avion penchait, à moins que ce ne fussent ses pensées qui chaviraient. Zach et Kaby étaient non seulement un de ses Néphilim, mais il était un membre influent de la secte. Le maillon qui assurait, via ce site, le lien entre les criminels exaltés de par le monde. Leur idéologue, leur guide peut-être. Cécile demeura un instant interdite, doigts en l'air, tremblant de la nuque au coccyx. L'évidence lui sautait à présent aux yeux. Le Nakhitchevan était l'épicentre de ce mouvement sectaire. Le palais d'Ishak Pacha son repère. Parastoukan, ce milliardaire azéri, son cerveau. Il fonçait dans la gueule du loup, à plus de 800 km à l'heure, dans un Falcon 2000. Dans le cockpit, le pilote observa Cécile avec un petit regard amusé.
« Faire demi-tour, mademoiselle ?»
Il baissa les yeux. Cécile, gênée, tira comme elle put sur son t-shirt pour couvrir son pubis. Le pilote avait déjà détourné la tête. Aux commandes depuis des années d'un Falcon 2000 loué pour des clients fortunés, il en avait vu d'autres. Il marmonna sans cesser de mâcher son chewing-gum.
« Il faudrait plutôt vous rhabiller, mademoiselle, et réveiller les autres. Nous descendons sur Nakhitchevan. Nous allons atterrir dans moins de 10 minutes. »
Nord de la Mésopotamie, 4370 avant Jésus-Christ, hiver. Jamais Ghana n'avait vu autant de monde. À vrai dire, la jeune fille ignorait même qu'il existait autant d'hommes sur Terre. Son frère Bilik lui avait raconté qu'entre les deux fleuves, des hommes avaient construit des villages immenses, avec des maisons de briques rouges collées les unes aux autres, et d'autres si hautes qu'elles défiaient le ciel et les dieux. Les hommes étaient devenus trop vaniteux. C'est ce que lui avait répété son frère. C'est pour cela que les dieux étaient en colère. Autour du village, toute la plaine n'était plus qu'un immense champ d'hommes et de femmes, de vieillards et d'enfants, debout, alignés, comme si on avait jeté des graines d'êtres humains dans des sillons de terre tracés bien droits. Certains, paraît-il, avaient marché pendant plusieurs lunes pour venir, pour répondre à l'appel des dieux. Ghana se tenait, elle aussi, à la même place depuis que le soleil s'était levé, entre sa mère Mashka, qui lui tenait la main, et Leka, fidèle, couchée à ses pieds. Ghana était épuisée. Les dieux et leurs serviteurs s'étaient installés en hauteur, sur la colline qui dominait la plaine. Quelques-uns, armés de lances de cuivre, empêchaient la foule d'avancer plus loin. C'était ridicule. Personne n'aurait été assez fou pour s'aventurer sur la colline. Tous ceux qui avaient osé blasphémer avaient été punis. 12 d'entre eux allaient mourir, pour l'exemple, chacun attaché à un tronc de sapin. Son grand-père, Avo, était le 7e. Les bourreaux portaient des peaux d'animaux sur leurs torses nus, et des gueules de fauves couvraient leurs visages. Cela aussi, pensa Ghana, était ridicule. Les bourreaux vivaient parmi eux dans le village. Elle savait que son frère Bilik était l'un d'eux, que c'est peut-être lui qui avait dénoncé son grand-père, tout comme il l'avait offerte aux dieux dans la cabane près de la cascade, pour plaire à ses maîtres. Son frère avait tellement changé depuis qu'il était à leur service. L'un des bourreaux, celui à la tête d'ours, alluma une torche, la jeta à terre et bondit en arrière. Un immense brasier s'éleva. « L'eau qui brûle !» souffla Ghana à sa mère. L'eau qui brûle était une autre des inventions des dieux. Elle permettait de se chauffer sans bois, d'éclairer le village toute la nuit sans torche, simplement en enflammant un vase.
Son grand-père avait été furieux lorsqu'il avait découvert que Bilic l'avait introduite chez eux. Il avait jeté le vase d'eau enflammée dans le canal au milieu de leur maison, et la rivière entière s'était mise à brûler. Son frère avait raison. Il ne servait à rien de lutter contre les dieux. De hautes flammes éclairaient à présent la crête de la colline, comme un rideau d'arbres rouges balayé par le vent. Les bourreaux détachèrent le premier des 12 prisonniers et le poussèrent dans le feu. Ganna ferma les yeux, alors que la foule autour d'elle hurlait de joie au sacrifice de chacun des hérétiques, excité comme un essaim d'abeilles avant l'orage. Avo fut le 7e à être jeté vif dans le brasier. Majka broya la main de sa fille. Ganna ne comprenait plus rien à la folie des hommes. Autour d'eux, la foule criait des mots à la gloire des dieux. Les flammes viraient maintenant au bleu. Personne n'avait jamais rien vu de tel. Le dernier prisonnier fut sacrifié. Ganna s'effondra au pied de l'Eka. Elle ne voyait plus rien, entourée par une forêt de jambes. Elle n'entendait plus rien non plus. Les dieux parlaient maintenant, et progressivement, l'excitation de la foule se transformait en surprise. Ganna n'avait pas besoin d'écouter pour comprendre. Les mots des dieux circulaient entre les rangs, relayés et commentés par 1000 voix incrédules. Les dieux parlaient de leur colère contre les humains désobéissants, de leur patience infinie, mais lasse désormais, du vice des femmes, de l'ingratitude des hommes, de leur vanité, de punition exemplaire. Soudain, un murmure de stupeur parcourut la foule. La forêt de jambes recula comme paniquée. Ganna dut se lever pour ne pas se faire piétiner. Elle constata l'horreur de ses propres yeux. 5 autres serviteurs apparurent sur la crête de la colline, habillés de peaux de serpent cousues. Chaque homme serpent tenait dans les bras un nouveau-né. Les bébés n'étaient âgés que de quelques mois, mais possédaient déjà des cheveux étonnamment noirs et longs. La scène fut brève. Des serviteurs s'inclinèrent devant les dieux, crachèrent par terre, puis jetèrent les nourrissons dans les flammes bleues. La foule se tut immédiatement. Ganna pressa les mains contre son ventre. Une douleur foudroyante lui déchira les entrailles. Elle s'effondra dans les bras de sa mère. Lorsque Ganna ouvrit à nouveau les yeux, elle vit d'abord l'Eka, couché sur elle, la réchauffant de son épaisse fourrure. Son premier réflexe fut de poser les mains sur son ventre. « Il va bien, » fit une voix dans son dos. « Ne t'inquiète pas, Ganna, ton bébé vivra. » Ganna lança un regard épouvanté. Elle avait reconnu son frère Bilic, le complice des dieux assassins. Il posa une main rassurante sur l'épaule de sa sœur. « Ne t'inquiète pas, Ganna. Tu es en sécurité, pour l'instant du moins. Les dieux ne savent pas pour le bébé. » Ganna observa autour d'elle. Elle ne reconnaissait pas le lieu où elle était étendue. Il s'agissait d'une sorte de grotte qui lui rappelait celle de la montagne, celle où elle se tairait dans cette autre vie qui lui semblait si lointaine. « Personne ne viendra te chercher ici, » continuait Bilic. « Maman et toi êtes en sécurité. Je me suis trompée, Ganna. Les dieux ne sont pas bons. Ils vont nous tuer, tous. Les eaux vont monter dans la plaine bientôt. Ce sera la punition infligée aux hommes. Toute vie va disparaître en moins d'une lune. Il faut fuir, fuir dans la montagne. Vous seuls connaissez la montagne. Vous pourrez survivre. » Ganna gardait les mains plaquées sur son ventre. Les images du feu sur la colline ne cessaient de la hanter. À quel camp appartenait son frère ? « Et toi, Bilic ?» demanda Majka d'une voix tremblante. « Je dois les retenir ici. Les dieux me font confiance. J'ignore pour combien de temps encore. Ils ont besoin de leurs serviteurs. Ils m'ont confié une mission. Je dois piller pour eux. Si je ne remplis pas ma mission, ils se méfieront. Mais vous, profitez-en. Fuyez tant qu'il est encore temps. » Majka embrassa longuement son fils. Ganna, abasourdi, leva les yeux vers les sommets blancs de l'immense montagne. « Fuyez !» répéta Bilic. « Fuyez avant que les dieux comprennent. »« Qu'ils comprennent quoi ?» s'inquiéta Ganna. Le doigt de son frère se posa sur le médaillon accroché à son cou. Le médaillon des dieux. Les deux traits gravés, le court et le long. « Qu'ils comprennent que tu portes leur enfant. »